Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo qui vous parle de tout sauf d'immobilier. Et pour illustrer ce propos, sachez qu'aujourd'hui nous allons parler musique, un thème cher au cœur de celui qui m'accompagne tous les mois. Bonjour Philippe Boyer.
Bonjour Johanna.
Je le disais, on va parler musique, vous y teniez,
oui,
c'est
fait,
aujourd'hui.
Ça fait longtemps qu'on attendait une émission comme celle-ci. Alors il y a le philosophe Nietzsche pour qui sans musique la vie serait une erreur. Il y a aussi Gustav Mahler qui disait l'essentiel de la musique n'est pas dans les notes, ou encore ces propos de Platon. Citons ce philosophe, la musique donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, un essor à l'imagination. Et enfin, toujours du même Platon, qui disait, on le cite, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Et puis, beaucoup plus prosaïquement, cette définition du dictionnaire Le Robert pour définir précisément le mot musique. Je cite, art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques, et de préciser plus loin, un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Dit autrement, la musique serait à la fois une science et un art. Vous l'avez compris, nous allons en effet aujourd'hui parler de musique, et cela en compagnie d'une personnalité exceptionnelle. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Zayas Guani.
Bonjour.
C'est un véritable honneur et un immense plaisir de vous accueillir à ce micro pour cette nouvelle émission. Zayas Guani, vous êtes chef d'orchestre mondialement connu. Vous avez créé en 1998 et vous dirigez depuis cette date l'orchestre symphonique Divertimento. C'est un orchestre de 70 instruments qui se retrouve toujours et qui est basé à Stein en Seine-Saint-Denis. Votre orchestre Divertimento a cette particularité de tisser des liens entre des grandes œuvres symphoniques et beaucoup d'autres courants musicaux, y compris la musique du monde ou la musique contemporaine, le hip-hop par exemple. Alors, bien sûr, Dvorak, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Chabrier, Stravinsky ou Bernstein, mais aussi le chant kabyle, le jazz ou encore les musiques de films. Bref, votre orchestre, Divertimento, c'est l'éclectisme et la musique à la portée de tous. Alors, avant que nous ne revenions sur votre parcours et surtout sur votre musique, nous avons pour coutume de commencer complètement à l'ouest par un court extrait sonore. Et ici, ce sera un mix entre humour, éventuellement humour grinçant, et musique en la personne de Gaspard Proust.
Enfin, quand je pense que mon pédigré artistique se résume à deux spectacles comiques, trois années chez Ardisson, et alors que vous vous grattez des gammes 12 heures par jour depuis l'âge de 4 ans. Quoi qu'il en soit, merci de vous être déplacé quand même. Vous avez de la chance parce que les compositeurs seront là ce soir. Oui. Je tiens à préciser que l'intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée sur leurs RIB respectifs. Comme j'ai accès au compte, devoir de transparence oblige, je peux vous confirmer que Ravel ne possède qu'un seul compte, au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Ce soir, je vous ai parlé de musique classique, de musique romantique, de musique post-romantique, mais on parle jamais de death metal classique qui existe. Hein, comme souvent, évidemment, qui dit death metal dit pays de l'Est. On va vous proposer un extrait de son 8e quatuor. C'est une œuvre dont il était assez sûr, puisqu'il souhaitait l'avoir joué à son propre enterrement. Ouais, il est comme ça, Schuster. Il n'y a pas de. En 4 mouvements, do, mi, dièse, sol, mi, ce qui nous donne dans les notes d'Europe centrale D, E, S, C, H, DESH. Hein, donc
Alors, je ne sais pas si nous parlerons du karma de Shostakovich, mais ce que je sais, Zayas Guani, c'est que nos 35 minutes d'émission ne suffiront certainement pas pour évoquer tout ce qui doit être dit sur le métier de chef d'orchestre, 2FE bien sûr, sur votre vie, sur la musique qui fait partie de votre vie. Mais pour commencer, je souhaiterais entendre l'artiste et la professionnelle de la musique nous parler vocabulaire musical, et pour cela, il faudrait vraiment nous rafraîchir la mémoire sur quelques termes qu'on entend mais qui peuvent nous être, en tout cas c'est mon cas, totalement étrangers. Appoggiature, mesure, harmonie, silence, nuance, mesure, phrasé, tempo, ut, contre-ut. Alors je me doute qu'on pourrait passer des heures sur chacun de ces termes, mais faut-il forcément les connaître pour apprécier la musique ?
Non, je pense pas. En fait, la musique, ce qui est super avec cet art, c'est qu'en fait, ça procure des émotions et c'est aussi ça qui m'a donné envie à la fois d'être chef d'orchestre, mais surtout aussi d'être la chef d'orchestre que je suis aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la musique, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes parents étaient mélomanes. Donc on allait aux concerts, on allait à Paris découvrir de belles musiques dans les grandes salles. Et en fait, dès que j'ai commencé à me poser la question de savoir qu'est-ce que je voulais devenir plus tard, comment je voulais être chef d'orchestre, je me suis dit que ces belles émotions que j'avais pu vivre, évidemment en pratiquant la musique, mais en allant au concert, et ben que ça, on devait pouvoir justement le partager partout et d'arrêter peut-être de s'imaginer que cette musique que parfois on appelle la grande musique, elle est possible que dans les grands lieux culturels. Et qu'au contraire, il fallait faire en sorte que ça devienne une culture populaire dans le sens beau du terme. Et donc non, moi je pense qu'il faut avant tout avoir envie de l'écouter, de la partager. Et aujourd'hui, avec les 20 ans d'expérience que j'ai, j'ai jamais entendu un jeune, même parfois certains qui vivent des réalités assez difficiles en banlieue ou même en milieu rural, ne pas être sensible à ce qu'ils ont écouté. En plus, face à un orchestre symphonique, pour reprendre l'univers du métal, ça n'a rien à envier au rock ou au métal, ça envoie les watts, comme on dit. Donc, quand vous êtes face à un orchestre, donc on ressent une belle énergie, plein d'émotions, et c'est ça qui est beau dans la musique. Après, c'est vrai que parfois, c'est intéressant, et moi j'aime bien aussi donner dans le concert, parfois des quelques éléments de compréhension de la musique, parce que c'est toujours aussi intéressant de savoir d'où elle vient, bien dans sûr. Quel contexte elle a été composée. Mais c'est avant tout un moment qu'il faut vivre, et c'est pour ça que c'est très beau de l'entendre à la radio, et c'est encore mieux aussi d'aller au concert, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très engagée aujourd'hui pour que la musique classique, la musique symphonique, elle puisse être présente partout.
Bien sûr.
On va revenir rapidement sur votre histoire, si vous le voulez bien, votre passion pour la musique, elle démarre avec la salle Pleyel, où votre père vous emmenait souvent. Vous venez d'une famille de passionnés de musique, vous commencez avec la guitare, puis ensuite le violon, et puis finalement l'envie de comprendre celui ou celle qui dirige ces grands ensembles. Alors vous nous avez dit pourquoi vous avez voulu devenir chef d'orchestre, mais c'est arrivé quand ? Est-ce qu'il y a eu peut-être un événement fondateur ?
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs instruments, et alors quand j'ai commencé la guitare, j'avais envie vraiment de faire cet instrument, mais je savais pas qu'il n'y en avait pas dans les orchestres, donc c'est vrai que je me suis beaucoup amusée, beaucoup épanouie à cet instrument que j'ai pratiqué pendant très très longtemps, mais j'avais absolument envie de me plonger dans l'univers de l'orchestre, donc c'est pour ça que j'ai joué de l'alto plus précisément, et en effet d'être face à dans l'orchestre, alors en plus un instrument qui vous plonge vraiment en plein cœur de l'orchestre et juste devant le chef d'orchestre. Donc pour moi, ça a été en fait une révélation. C'était difficile par contre de m'imaginer un jour devenir chef d'orchestre parce que je voyais que des hommes, je voyais pas beaucoup de jeunes. Et donc j'ai continué malgré tout à emprunter des partitions, ce qu'on appelle les conducteurs d'orchestre, qui sont les partitions du chef d'orchestre. Avec mon père, à regarder beaucoup de documentaires sur les chefs d'orchestre. Et en effet, ce qui a créé pour moi, il y a eu peut-être deux moments de déclic. Le premier, c'est que au conservatoire de Pantin où j'ai étudié, un jour je faisais un projet d'orchestre et avec des professionnels et comme avec ma sœur jumelle Fethouma, on était assez avancés, donc on a été choisis toutes les deux pour rejoindre nos professeurs et c'était une œuvre de musique contemporaine qui nécessitait d'avoir un chef d'orchestre. Et dans cette œuvre-là, l'alto ne jouait pas. Donc on m'a dit, Zaya, t'es dégourdi, puis en gros, il faut que tu te débrouilles. Donc j'ai eu cette première expérience et que j'ai beaucoup aimée parce que d'un seul coup, j'avais pas l'impression d'être une élève et surtout, j'avais l'impression d'être à ma place et de savoir, même si j'étais timide et réservée, de savoir ce que je voulais. Et cette expérience, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'être. Et donc je disais autour de moi, mes professeurs, mon entourage, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Après, j'ai été vite un petit peu ramenée à une certaine réalité pas évidente parce que comme en fait, je voyais pas de femme chef d'orchestre et que autour de moi j'ai aussi des personnes qui m'ont dissuadée, qui m'ont dit non, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Donc d'un seul coup je suis un petit peu redescendue violemment de cette idée-là, de cette envie. Et puis mais j'ai continué à persévérer et j'ai rencontré un grand maître de la direction d'orchestre, Sergio Celibidac, qui
était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je rêvais de le rencontrer. Je m'imaginais pas un jour le rencontrer, encore moins étudier à ses côtés. Et quand il m'a dit, bah écoute Zaya, oui, je veux bien t'accepter dans ma classe, mais par contre, il faut de la persévérance. Il était très exigeant. Il m'a dit, bah les femmes n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe, donc ça m'a donné envie de lui montrer que c'était possible. Et en effet, pour moi, ça a été un déclic parce que il a vu que j'avais du potentiel. Et puis moi, ça m'a aussi convaincue qu'il fallait aller plus loin. Que ce serait en effet difficile, mais qu'il fallait aller plus loin. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans, vers 14 ans et vers 16 ans, j'ai eu ces deux expériences qui m'ont convaincue que c'était ça que je voulais faire. Et puis ouais, après, ça a été le début d'un long chemin.
Alors, sur ce métier de chef d'orchestre, il y a cette phrase de Jean-Claude Casadesus, que vous connaissez, bien sûr, fondateur et directeur du Philharmonique de Lille, et qui, à l'occasion d'un entretien, avait précisé que pour être un ou une chef d'orchestre, la principale qualité était d'avoir la partition dans la tête et non pas la tête dans la partition. Est-ce que c'est aussi pour vous la définition du chef d'orchestre? Et il disait aussi que le chef d'orchestre est d'abord là pour donner du plaisir.
Oui, alors en effet, en tout cas, pour être chef d'orchestre, il faut avoir des choses à dire, des choses à raconter. Alors c'est vrai, ce qui est pas simple, et tout à l'heure c'est assez juste le petit sketch de Gaspard Proust, parce que on joue beaucoup d'œuvres de compositeurs qui n'appartiennent plus à ce monde. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de se rapprocher de leur pensée, de savoir comment restituer une œuvre alors qu'ils ne sont plus présents. Alors on a beaucoup d'indications dans la partition, mais après il faut aussi savoir un petit peu s'en détacher, non pas qu'on veut réinventer la musique, mais en fait chaque orchestre est différent, chaque personne qui constitue l'orchestre est différent, donc les instruments ont évolué, en fait les instruments pour lesquels Schubert ou Mendelssohn ont écrit ou Beethoven il y a 250 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui, donc il faut être en capacité justement de pouvoir adapter ça et puis en effet d'avoir une personnalité, d'avoir des choses à raconter, s'extraire dans la partition, parce que pour moi un chef d'orchestre, un bon chef d'orchestre, il doit avoir donné envie aux musiciens de se dépasser, créer du lien avec eux, donner beaucoup d'énergie pour qu'eux-mêmes en donnent. Et donc c'est vrai que si on est la tête dans la partition, bah du coup on crée pas ce contact avec eux, et que c'est important d'avoir non seulement savoir quoi dire sur une œuvre, mais de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut raconter dans son engagement de chef d'orchestre. Et moi, je sais que j'avais pas simplement juste envie de diriger des œuvres et puis de parcourir le monde, mais j'avais aussi envie de faire évoluer des idées, des pratiques, et puis surtout remettre aussi notre vie d'aujourd'hui, dans nos réalités d'aujourd'hui, le contexte de ces œuvres-là qui ont plein de choses à raconter, qui parfois interrogent aussi des sujets qui nous concernent encore aujourd'hui.
Vous l'avez évoqué, il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre exact qu'elles représentent dans le monde. En tout cas, elles sont plutôt minoritaires. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer dans ce monde majoritairement masculin?
Pardon. Oui, alors en effet, on est vraiment pas, on est loin de la parité. Hein. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et qui disent que 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. Donc, en effet, voilà, 4%. Et donc, au niveau national et international, on n'est vraiment pas très nombreuses. Donc, oui, des difficultés, forcément, j'en ai rencontré parce que, au tout début de ma carrière, quand je commençais parfois à me présenter devant des orchestres nationaux, des orchestres professionnels, forcément, ils n'avaient pas l'habitude de voir déjà un jeune chef d'orchestre, une femme. Donc c'est vrai qu'il a fallu aussi convaincre beaucoup, parfois encore maintenant, que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, il y a très très peu de femmes. Pendant 20 ans, il n'y en a quasiment pas eu du tout. Et aujourd'hui, il y en a très 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 peu qui sont nommées à la tête des orchestres nationaux, qui sont les orchestres qui sont beaucoup portés par l'État et les grandes collectivité. Donc aujourd'hui, les quelques femmes que nous sommes à évoluer dans le milieu musical, on le fait aujourd'hui à la tête de nos propres ensembles. Et que si on n'avait pas créé nos propres orchestres, moi je ne dirigerais pas autant que ce que je fais aujourd'hui. Aussi parce que d'être chef d'orchestre, on peut l'être en tant qu'invité à la tête de différentes phalanges et de formations. Mais après, il faut aussi être directrice musicale, directeur musical, pour pouvoir aussi créer une ligne artistique, donner une identité à son orchestre, créer des projets qu'on a envie de faire. Et je sais que j'aurais jamais eu cette possibilité-là si je n'avais moi-même pas créé mon propre ensemble, parce que j'avais plein de choses à dire. Et donc oui, des difficultés, j'en ai rencontré beaucoup. Et parfois encore aujourd'hui, même dans, que ce soit, comme je vous le disais, dans les invitations à diriger des orchestres, ou même dans les moyens qui me sont donnés, par exemple, pour mon orchestre, même s'il y a des petits efforts qui ont été faits récemment, on sent qu'on n'est pas encore, enfin, moi, je suis pas encore à la hauteur de, parfois, des moyens qui sont donnés à d'autres, à d'autres orchestres qui sont dirigés par des hommes. Donc, au même titre que dans une même entreprise à qualification égale, eh ben, il y a encore des différences de salaire, ben, il y a aussi encore des différences de moyens qui sont données. Et donc, ça, c'est, c'est une vraie réalité. Et donc, oui, des difficultés, j'en ai rencontré. Et plus j'avance, et plus je suis confrontée à de nouvelles difficultés qui sont parfois plus celles que j'ai rencontrées il y a quelques années. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire dans cet univers de la culture, même si depuis 2-3 ans, on sent que ça avance doucement. Mais ça avance un petit peu.
Merci Zaya Zouani pour ces premières explications. Vous restez bien avec nous. On va marquer une petite pause musicale avec un titre que, évidemment, vous avez choisi. Alors, ça n'a peut-être pas été évident de n'en choisir qu'un. En tout cas, vous l'avez fait et vous avez porté votre choix sur Camille Saint-Saëns. Il s'agit de la suite algérienne opus 60. C'est le troisième mouvement. Un morceau qui s'intitule Rêverie du soir à Blida. Et vous dirigez bien sûr les musiciens qui produisent cette magnifique musique. On l'écoute et on revient juste après dans Complètement à l'Ouest.
À l'ouest, Philippe Boyer.
De retour dans Complètement à l'ouest pour ce numéro que nous avons décidé de dédier à la musique avec la chef d'orchestre qui est avec nous, Zaya Zouani. Il y a quelques semaines, votre orchestre et vous-même avez communiqué que vous étiez partie prenante du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pourquoi cet engagement et quel rapport faites-vous entre sport et musique ?
Alors, il y a beaucoup de liens entre les deux. Alors, en fait, pour ma part, c'est vrai que j'ai été invitée dès le début en fait, de cette belle aventure pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, de participer déjà à l'écriture du dossier de candidature. Et ce qui est bien dans cette édition-là, c'est que la culture a été aussi mise à l'honneur. Alors, déjà, dans sa dimension patrimoniale, puisque... les très beaux monuments de Paris et puis la région parisienne seront aussi valorisés dans le cadre de certaines épreuves, mais également sur la France. C'est vrai qu'on est un pays de grande culture et où justement dans ce travail qu'on essaye d'impulser pour faire changer aussi notre schéma de société, les pratiques, de mettre plus au centre de l'éducation par exemple des jeunes, la place du sport, la place de la culture. Donc c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur cet aspect-là, sur quel héritage justement ces jeux vont permettre permettre d'apporter et comment justement on va transformer ça. Et il y a énormément déjà de points communs entre les sports collectifs, entre l'orchestre symphonique, les valeurs qui sont communes. Si on prend ne serait-ce que les valeurs de l'olympisme, le respect, la fraternité, l'excellence, c'est ce qui caractérise en effet un orchestre avec justement cette notion de solidarité, de collectif, d'excellence, de travail, de dépassement de soi. Donc ça c'est vrai que, et puis pour ma part, moi j'ai été élevée avec le sport et la musique, alors j'ai pris la direction de la musique, mais je trouve que ça résonnait aussi par rapport à mon parcours personnel. Et puis le dernier point, c'est que l'orchestre Divertimento, on est implanté à la ville de Stein depuis maintenant plus de 20 ans, et que c'est le territoire qui accueillera aussi en Seine-Saint-Denis, les Jeux Olympiques, pleine commune, le Stade de France, Saint-Denis.
Et le village des athlètes.
Exactement. Et donc, du coup, forcément, un bel événement comme celui-là, on ne pouvait que faire partie prenante de ce projet. Et puis, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est aussi pendant un temps donné, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, où toute la planète est réunie. Et donc, il y a aussi cette rencontre entre les cultures. Et ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup, justement, explorer, travailler, présenter dans les programmes artistiques. Donc, en fait, pour moi, c'était une évidence que, je devais en faire partie. Et puis, du coup, avec l'orchestre Divertimento, on a toute une ligne artistique et des projets pédagogiques autour de cette rencontre entre la musique et le sport.
Je voudrais revenir un instant sur le métier de chef d'orchestre avec peut-être cette question un brin simpliste. Donc un orchestre, c'est bien sûr un rassemblement d'hommes et de femmes avec leur qualité, leurs défauts. Comment faites-vous en tant que chef d'orchestre, presque en tant que manager, en tant que patronne de l'orchestre, pour mettre tout le monde d'accord, y compris parfois sur la manière de jouer un morceau, alors que par exemple tel ou tel personne qui manie tel ou tel instrument ne peuvent pas forcément d'accord avec vous. Comment faites-vous ?
En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet. Hein. L'orchestre, ce n'est pas du tout une démocratie participative. Voilà. Après,
c'est dit.
Voilà. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est que les musiciens ont besoin d'avoir un bon chef en face d'eux et de savoir où les emmener. Et je pense que c'est aussi propre à... un bon chef d'entreprise, un bon homme politique aussi, c'est de savoir, un bon coach, c'est de savoir où est-ce qu'on veut emmener les personnes que l'on va emmener avec nous. Donc moi, je sais que je viens avec une vision musicale qui, sur des œuvres qui... elles-mêmes s'inscrivent aussi dans un programme qui a un sens, qui a un argument et qui est inscrit aussi dans une ligne artistique bien précise. Donc, je pense que déjà, ça rassure aussi les musiciens de savoir pourquoi son programme et les œuvres.
Comprendre la logique.
Voilà, comprendre la logique, là où je veux les emmener. Et en effet, ça fait partie aussi des qualités d'un chef d'orchestre, de fédérer tout le monde. Et forcément, on n'a pas forcément toujours l'unanimité, mais il faut justement arriver à être déjà très exigeant avec soi-même pour après justement tirer cette exigence aussi des musiciens. Et même si parfois on peut être amené à en discuter, moi je sais que je suis souvent à l'écoute des musiciens de l'orchestre Divertimento parce qu'ils sont destinataires de ma direction, de mon travail. Et donc parfois j'aime bien écouter, avoir leur retour, mais ça reste, comme vous le disiez très justement, ça reste moi la chef d'orchestre, la patronne. Il faut à un moment donné prendre des décisions et moi je les assume pleinement. Ce qui n'empêche pas par ailleurs, à côté, dans ce fonctionnement d'orchestre, et c'est aussi pour ça que c'est à la fois une belle aventure musicale et aussi humaine, il y a des musiciens qui sont présents depuis 20 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis quelques années, mais avant tout, moi j'essaie aussi de les impliquer sur d'autres formes, parfois sur l'activité pédagogique, parfois sur la réflexion aussi, sur la stratégie de l'orchestre, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut travailler. Donc j'essaie de leur laisser des espaces aussi pour s'exprimer, mais après quand on est sur le plateau de répétition, de concert, je suis la chef d'orchestre, j'expose mon point de vue musical, et puis voilà, et puis après je fais en sorte de fédérer tout le monde, et qu'on crée des équilibres et une force commune qui fera que on ira justement tous ensemble dans cette même direction.
Justement, est-ce que vous pouvez nous détailler le rôle du chef d'orchestre, demander différemment, est-ce que les musiciens savent s'accorder dans tous les sens du terme sans lui ?
Alors oui, normalement ils peuvent bien sûr. Alors après c'est vrai que c'est comme pour des équipes de sport collectif, il y a aussi besoin d'avoir du temps de jeu ensemble pour que justement il y ait des automatismes qui se créent, des complémentarités, des complicités. Donc oui, une fois que le chef d'orchestre a installé un travail, il peut y avoir des grands moments de musique de longs moments qui peuvent se dérouler sans chef d'orchestre. Après c'est vrai que le chef d'orchestre il est là quand même pour donner une énergie qui est indispensable au concert, que les musiciens vont aussi pouvoir après redonner. Et puis c'est vrai que le chef d'orchestre, il a besoin de beaucoup travailler avant les répétitions pour que justement arriver au moment des répétitions et d'être le plus efficace possible. Alors moi souvent, c'est pas forcément lors des concerts que j'ai le plus le trac, mais c'est surtout pour la première répétition, parce qu'on a un certain nombre de répétitions où je sais que pendant ce temps-là, qui est imparti, il y aura pas une minute de plus, pas une répétition de plus, il faut que j'arrive à faire progresser l'orchestre, à l'amener au top du top pour que le premier concert, ça soit le mieux. Mmh. Et donc, il faut que moi, je sois vraiment au maximum de ma préparation dès la première répétition. Les musiciens, c'est un peu différent. Ils vont évidemment avoir tout un travail personnel qu'ils vont devoir fournir. Mais petit à petit, bah, ils vont monter comme un sportif. Mmh. Ils vont monter en compétences, en capacité pour qu'ils soient au maximum de leur préparation pour le premier concert. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même temporalité ni la même préparation. Et puis, voilà. Et donc, pendant les répétitions, c'est très stratégique. Et c'est là où parfois, justement, on peut avoir ressentir certaines résistances. Certaines personnes ne sont pas forcément d'accord. Bon. Après, ça peut arriver dans des orchestres qui me connaissent pas forcément. Le mien, ce sont des musiciens qui adhèrent à ce projet depuis longtemps. Donc forcément, ils adhèrent aussi à ma vision musicale. De temps en temps, on peut avoir des petits désaccords. Mais le chef d'orchestre, il doit être vraiment très important, très fédérateur pendant ces temps de répétition. Et le jour du concert, être là pour que on donne le maximum d'énergie. Et souvent, il y a toujours cette magie du concert où on est encore meilleur qu'en répétition, même si on a bien travaillé, parce que justement il y a le challenge, il y a le public qui est là, il y a une certaine émulation qui se crée encore plus, et pour ces moments-là, c'est des beaux moments, même si parfois c'est un peu dur. Moi je me dis que quand je ressors de scène, je suis contente d'avoir vécu ces beaux moments.
Combien de musiciens Divertimento?
L'orchestre, on est environ 80 musiciens. Wow. Alors parfois on a des programmes où on est un petit peu moins nombreux, parfois on est un peu plus, on peut aller jusqu'à une centaine. Le concert dont était extrait le morceau qu'on a entendu tout à l'heure, l'œuvre, on était une centaine de musiciens sur le plateau. Voilà, parfois on peut être aussi à des programmes de 15-20 musiciens. Et c'est vrai que tout à l'heure vous évoquiez l'éclectisme, ou en tout cas peut-être la diversité des styles, des programmes qu'on aime bien aborder. Et donc majoritairement on va être dans cette grande formation symphonique, mais on a aussi parfois une dimension un peu plus variable en fonction des programmes et des projets.
Alors vous évoquiez tout à l'heure les JO et le programme de ce que vous allez faire d'ici 2024. Aujourd'hui, votre orchestre tourné notamment vers les quartiers dits difficiles, qu'est-ce que vous faites justement pour populariser, faire connaître la musique et où les métiers de musicien ou de chef d'orchestre?
En fait déjà on est présent. Alors c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que on se met pas de barrière et moi je travaille. Alors parfois ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, mais justement pour aller à la rencontre des élus, des maires de certaines villes, où parfois je viens à leur invitation, et puis on se dit, on va faire en sorte que la musique crée une dynamique musicale, culturelle supplémentaire, ou parfois même la crée tout simplement. Et donc, on se donne les conditions pour faire en sorte que l'orchestre puisse venir y jouer une fois, deux fois dans l'année, parfois trois fois. Après, il s'agit pas juste de dire, on va venir faire un concert, et puis quand bien même on ferait les places gratuites, c'est pas ça qui va faire qu'il y aura du monde. Nous, notre intérêt, c'est de faire en sorte qu'évidemment il y ait du monde, mais que ça soit aussi à l'image des diversité qui compose la population de ces villes. Donc c'est là où on va faire tout un travail auprès des structures de proximité. Ça peut être des centres sociaux, des maisons de quartier, évidemment les établissements scolaires, les lieux culturels, là où les personnes vivent, pour justement aller se présenter, présenter les œuvres, nos métiers, qui on est, et puis leur donner envie de venir au concert. Et justement de les faire venir au concert. Donc ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, des années, on voit qu'il y a du résultat, puisqu'on a nos concerts qui sont pleins, même dans des territoires qu'on pourrait pas forcément se dire que ça peut fédérer des personnes, et que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural d'ailleurs. Et puis après, dans ma réflexion, je me suis dit que les jeunes qu'on a amenés à faire venir au concert, il fallait aussi que ça soit ces mêmes jeunes-là aussi qui puissent pratiquer la musique, et en tout cas leur donner cette opportunité de pouvoir le faire. Et donc on a créé une académie qui justement forme des jeunes à la musique, alors parfois pour les initier, d'autres qui sont déjà présents sur ces territoires-là mais qui ont du potentiel, qui sont en milieu de parcours, voire en voie de professionnalisation, mais où on se retrouve parfois confronté aux mêmes logiques, aux mêmes réalités que dans d'autres univers, où ce sont des jeunes qui ont beaucoup de potentiel mais pas forcément le réseau pour commencer à intégrer une première expérience professionnelle. Donc nous, on est là aussi pour les accompagner. Et l'orchestre, quand on est sur scène et qu'on fait un concert, c'est comme en Ligue des Champions, comme aux Jeux Olympiques, on a le droit qu'à une seule fois, il faut être le meilleur tout de suite. Et je trouve que c'est une belle école de la vie. Et donc, parfois, on invite aussi des jeunes les plus méritants, les plus expérimentés, à nous rejoindre sur certaines scènes nationales ou à dimension internationale, comme quand on joue à la Philharmonie de Paris. et pour les amener à comprendre ce que c'est justement de cette exigence, cette excellence à laquelle on veut, on aspire les amener. Et pour qu'ils comprennent ça, et après même pour certains, s'ils veulent pas forcément se destiner à être musicien professionnel, bah après ce sont des expériences qui sont riches pour eux et qui leur permettent de transposer ça même dans d'autres univers professionnels. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la vie de l'orchestre, c'est à la fois d'être présent à la Philharmonie de Paris ou dans d'autres lieux, mais c'est aussi de créer des liens avec des publics très différents dans différents lieux. Et voilà, et on essaye d'apporter un bel équilibre entre cette proximité que l'on crée avec des habitants et puis aussi avec et puis nos productions dans les belles salles de concert.
Le temps file. Philippe, vous avez peut-être une dernière question pour
on
notre
plein,
invité.
On a plein de questions, 3000 autres questions. On a peut-être le temps, on va prendre le temps. Non, cette question qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, y compris lorsqu'on a préparé cette émission. Alors, quel, au singulier ou au pluriel, compositeur, homme ou femme, auriez-vous rêvé de rencontrer et pour quelle raison?
Ah, c'est une bonne question.
Hein. Pas facile. Hein.
C'est pas facile, ouais. Bon, alors c'est vrai que je vais, ouais, c'est ça. Je vais en citer, si vous m'autorisez, peut-être trois. Le premier, bah, Camille Saint-Saëns, parce que c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Voilà, que j'ai beaucoup joué. À la fois parce que c'est, bah, voilà, il représente le patrimoine musical français, qu'il a beaucoup voyagé. Donc, notamment cette année, j'ai eu l'occasion de faire une grande programmation autour de Saint-Saëns le voyageur et justement de jouer des œuvres qui sont inspirées de ses voyages en Espagne, en Italie, en Égypte, en Algérie. Et bon, moi-même qui me nourris de ma double culture, bah c'est vrai que toute sa production de musique, notamment quand il était en Algérie, bah ça me touche beaucoup. Donc oui, j'aimerais bien le rencontrer.
Donc, Saint-Saëns.
Voilà,
Saint-Saëns,
le premier. La deuxième, ce serait Lily Boulanger, qui est une femme compositrice qui a écrit de très belles œuvres, qui malheureusement est décédée assez jeune de par sa fragilité de santé, mais voilà, qui a écrit de très belles œuvres. Peu malheureusement pour orchestre, mais bon voilà, j'aurais aimé la rencontrer, puis peut-être assister à et pouvoir créer peut-être certaines nouvelles œuvres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son style. Et puis c'est vrai qu'il y a très peu de femmes compositrices, donc voilà, il faut les mettre en avant. Et il y en a beaucoup qui ont existé, et malheureusement dans l'histoire, on les a pas toujours retenues à leur juste valeur. Donc ça serait pour moi important. J'aurais aimé la rencontrer. Et puis peut-être un peu plus récemment, Leonard Bernstein, qui était aussi un grand compositeur, un grand chef d'orchestre, un grand pianiste. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi par rapport à mon parcours personnel. Il était très attaché à la transmission pédagogique. Lui-même, il se nourrissait de ses racines d'Europe de l'Est, américaine également. Il s'est beaucoup inspiré aussi des musiques du monde dans ses créations musicales. Donc voilà, il y a plein de rencontres, de liens dans sa vie qui sont ce qui m'anime dans mon métier de chef d'orchestre. Créer du lien entre l'orchestre, le public, entre une œuvre et les musiciens, entre des cultures qui ne se seraient pas forcément rencontrées sur une scène de musique symphonique. Et donc voilà, donc cette notion de lien, de partage, bon voilà, ça, je sais que lui aussi il y est attaché, donc voilà les trois noms qui m'inspirent aujourd'hui.
On a notre trio.
Voilà.
Merci beaucoup, merci Zaya Zuliani d'avoir été en notre compagnie. C'est vraiment, on est très flattés, très
merci.
Heureux de vous avoir accueilli à ce micro. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas de générique de fin, mais la diffusion de ce morceau, pour lequel vous êtes bien sûr à la direction de votre orchestre. Il s'agit d'un morceau tout trouvé pour Complètement à l'Ouest, puisqu'il y a question de voyage et de piraterie, avec la musique de ce film mondialement connu, on va l'écouter dans un instant. Mais avant cela, je souhaiterais mentionner que votre orchestre, Divertimento, peut se mettre au service d'acteurs publics comme privés, afin de faire rayonner la musique auprès de tous les publics. Et pour cela, notamment, le mécénat est possible et sur votre site internet sont présentées toutes les formules possibles. Formules, rappelons-le, qui ouvrent droit à des déductions fiscales. Donc j'incite nos auditeurs à se rendre sur votre site internet orchestre-divertimento.com, rubrique entreprise, pour tout savoir sur les mille une façons de devenir partenaire de ce magnifique orchestre. Alors on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro de Complètement à l'Ouest. En attendant, on va garder le cap et pour une fois, nous allons mettre le cap vers l'Est, complètement vers les Caraïbes, en écoutant ce morceau dirigé par vous, Zaya Zuliani. Merci beaucoup.
Merci.